7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons éducation. Et aujourd'hui, à quoi sert le redoublement ? La France souhaite diminuer cette pratique très largement d'ici la prochaine rentrée. C'est l'un des pays dans le monde où l'on redouble le plus, en tout cas dans le monde développé. Et avec les pays d'Afrique francophone, justement, on va en parler avec vous. Denis Meuret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en éducation, professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université de Bourgogne et Irédu. Si je vous pose comme ça la question abruptement, à quoi sert le redoublement ? Que me répondriez-vous ?
Ben, à pas grand-chose.
D'accord, ça c'est votre réponse. À pas grand-chose. D'accord, je prends note. François Portzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président national du SNALC en France. C'est le deuxième syndicat national des lycées et des collèges. Pour vous, quelle utilité du redoublement ?
Permettre à des élèves qui ont perdu pied de réussir s'ils sont suffisamment motivés pour le faire.
Deuxième chance donc. Et pour vous, Jacques Malpel, vous travaillez à Dakar, vous êtes le chef du PASEC à Dakar, ces programmes d'évaluation de la conférence des ministres de l'éducation des pays de la francophonie. Vous êtes de passage à Paris. Que signifie le redoublement ? À quoi sert-il ?
Alors, je dirais plutôt à quoi devrait-il servir ? Il devrait servir, et je rejoins mon voisin, pour dire que ça donne une deuxième chance aux élèves qui sont dans une situation passagère d'échec ou de manque de réussite, à condition que les moyens soient mis pour
donner cette réussite. C'est ça. Donc, sous-entendu, ça devrait donner, mais ça ne donne pas, c'est ça, de deuxième chance ?
Malheureusement, c'est l'inverse.
Ça n'a pas l'utilité que ça devrait avoir.
Voilà, c'est plutôt l'inverse.
Vous nous expliquerez pourquoi. Et quant à vous, les voisins, les voisines, que vous soyez enseignants, que vous soyez parents d'élèves ou étudiants, tout simplement grands frère d'ailleurs, ou grande sœur dans la famille. Votre avis, vos témoignages nous intéressent concernant le redoublement. Le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Surtout, vous appelez dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission, sinon il y a embouteillage au standard. Allez, je vous livre quelques commentaires tout de même postés sur les réseaux sociaux. Mamadou à Dakar, moi je n'ai jamais vu un élève qui double sa classe et qui par la suite fasse partie des meilleurs. Donc, je me demande à quoi ça sert de lui faire redoubler sa classe. Oumar à Dakar, professeur d'histoire-géographie. Au Sénégal, le redoublement n'existe presque plus et cela explique le taux élevé d'échec au bac des élèves arrivant en terminale avec beaucoup de lacunes. Ngimouna Ngaoundéré au Cameroun nous dit annuler le redoublement, c'est entraîner la faillite du système éducatif. Charlemagne va se retourner dans sa tombe. Dieu, que vous êtes grandiloquent, les voisins, sur ce sujet. Le redoublement à l'école, école primaire, école secondaire. À vous de nous téléphoner maintenant, 33 1 84 22 71 71. Denis Meuret, Jacques Malpel, François Portzer, peut-être une première question pour vous, Denis Meuret. En France, plus d'un quart des adolescents de 15 ans déclarent avoir déjà redoublé au moins une fois. Quelle est la situation aujourd'hui dans le reste du monde, grosso modo ?
Écoutez, ça dépend des pays, évidemment. Une demi-douzaine de pays de l'OCDE ont des taux de redoublement à 15 ans inférieur à 6%, je dirais. La France a un taux de 28%. Elle fait partie des 5 pays...
C'est-à-dire 28% des Français ne redoublent...
Non, 28% des élèves qui avaient 15 ans en 2012 ont redoublé une ou plusieurs fois au cours de leur scolarité. En 2009, ce taux était de 37%. Et nous étions le pays de l'OCDE où ce taux était le plus fort.
Aujourd'hui, on est le cinquième pays.
Aujourd'hui, on est seulement le cinquième parce que, effectivement, depuis une vingtaine d'années, en particulier une dizaine d'années, la pratique du redoublement a beaucoup baissé en France, à l'école, au collège et même au lycée.
Pour quelle raison ?
Parce qu'il y a eu une pression forte de la part de l'administration pour faire baisser les taux de redoublement. Alors évidemment les syndicats, et pas seulement celui de mon interlocuteur, disent que c'est pour faire des économies.
Ce qui est vrai, en partie.
Ce qui est en partie vrai, on pourra en parler, mais on surestime parfois les économies que le redoublement permet de faire. À la dernière conférence de consensus, deux économistes de l'École d'économie de Paris ont présenté un très beau travail là-dessus, d'où il ressort évidemment premièrement que ces économies ne sont pas immédiates, puisque l'élève qui redouble pas son CP, il passe en CE1, donc au CE1 il faut bien le financer. D'autre part, et donc
si on prend l'année scolaire par tête d'élève, s'il fait un an de moins, ça coûte quand même un an de moins à l'État.
Oui, mais on en tire le bénéfice quand il sort, parce qu'il sort, et on n'en tire le bénéfice tout de suite.
Oui.
D'accord. Bon, d'autre part, il y a des phénomènes complexes qui font que l'économie augmente puis baisse, enfin, et sinueuse. En plus, il faut tenir compte du fait que le redoublement, hélas pour les élèves, les fait sortir plus tôt, favorise ce qu'on appelle le décrochage. Qui dit décrocheur, dit scolarité moins longue, dit économie. Donc, si on supprime le redoublement, on peut espérer, en tout cas j'en espère, que les élèves fassent de plus longues études, ce qui coûtera un peu plus cher. Donc, des économies, oui.
Mais retransférera vers la qualité.
Dont on ne connaît pas exactement le montant.
François Portzer, syndicaliste enseignant en France, un décret d'il y a quelques mois du ministère de l'Éducation nationale prévoit de limiter donc drastiquement le redoublement là en France à partir de la prochaine rentrée, c'est-à-dire de le rendre en gros exceptionnel, c'est-à-dire pour pallier une période importante de rupture des apprentissages, là je cite le texte, ou sinon à la demande des parents en classe de 3e et de 2e quand l'orientation proposée n'est pas accepté. Qu'est-ce que vous en pensez de ce décret, de cette décision ?
Écoutez, nous sommes tout à fait opposés à ce décret. Nous avons d'ailleurs déposé un recours devant le Conseil d'État pour qu'il soit annulé. Parce que nous pensons que le redoublement doit être un outil laissé aux équipes pédagogiques pour, en fonction des demandes des familles et aussi en fonction des motivations des élèves.
Donc vous estimez finalement que ça restreint la liberté des familles d'une certaine façon ?
Tout à fait. Et la liberté des équipes pédagogiques. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt des premiers intéressés qui sont les élèves.
Et alors pourquoi ? Expliquez-nous un peu plus en détail. Pourquoi vous estimez qu'il faut continuer à faire redoubler ? Puisque c'est vrai qu'en France, une partie des enseignants, du moins, reste attachée à cette pratique.
Disons que le redoublement n'est pas une solution miracle, mais ça doit rester un outil utilisable. Le problème dans l'enseignement français, vous avez 20% des élèves qui rentrent au collège en difficulté, ils en sortent toujours en difficulté.
C'est-à-dire en ayant de vraies grandes difficultés pour écrire, compter.
Donc il faut mettre en place des dispositifs pour essayer de remédier à ces difficultés, et le redoublement peut faire partie de ces dispositifs.
C'est-à-dire qu'en gros, si on faisait plus redoubler à l'école primaire, on aurait moins de 20% d'élèves en grande difficulté scolaire à l'entrée au secondaire, c'est ce que vous dites ?
Ça peut éventuellement être une solution, mais c'est pas une solution miracle, parce que c'est au cas par cas. Ça dépend vraiment du profil de l'élève et de sa motivation.
Oui, Denis Meuret.
Sauf erreur de ma part, vous disiez que ça devait rester un outil à la disposition des familles. Il y a effectivement deux types de redoublement. Celui qui est plutôt décidé par les familles quand on est avant un palier d'orientation en troisième ou en seconde, et celui qui est décidé plutôt par l'école, et ça c'est plutôt les redoublements du début du primaire et du début du collège. Si je me trompe, le décret prévoit qu'à la demande des familles, l'élève peut redoubler. Donc le redoublement qui doit devenir exceptionnel, c'est celui qui est décidé par l'institution. Pas celui qui est demandé par les familles pour...
Sans être technique, j'attire votre attention sur le fait que pour que le redoublement puisse avoir lieu, il y a toute une procédure avec des commissions d'appel, etc. Donc là encore, on est dans la concertation par rapport aux familles, dans tous les cas de figure.
Vous voulez dire actuellement ?
Actuellement, oui, actuellement. Et donc, quand un redoublement est prononcé par une équipe pédagogique, c'est jamais un diktat ni une sanction.
Alors, quand vous dites équipe pédagogique, c'est quand même globalement, c'est les notes qui décident du redoublement, donc ce sont les enseignants. Faut quand même se rendre à l'évidence. Ce sont les enseignants qui sont tout puissants sur le redoublement.
Alors, malheureusement, je vous signale que depuis 89, ce sont les chefs d'établissement qui ont la main.
D'accord.
Et qui ne sont pas...
Le chef d'établissement sur avis des enseignants et au vu des notes qui sont sur le bulletin scolaire.
Oui, mais bien souvent, il peut très bien décider qu'un élève n'en redouble pas alors que les équipes enseignantes ils sont favorables.
Oui, est-ce qu'il a vraiment intérêt à se mettre à dos toute l'équipe enseignante? Très honnêtement, pour sauver un
ça
élève.
Ça arrive souvent, faut... très souvent.
Oui. Jacques Malpel, sur le redoublement en Afrique.
Alors peut-être que la situation n'est pas tout à fait comparable à celle qu'elle est en France.
On parle bien de l'Afrique francophone là, parce que c'est vrai que il y a quand même des points communs du fait d'une histoire commune en tout cas.
Il y a un héritage culturel, pour ne pas dire colonial. C'est vrai que le redoublement en Afrique était très important. Il y a des pays où il atteignait 30%. Et les études du PASEC démontrent très clairement qu'un élève qui redouble n'a pratiquement jamais de meilleurs résultats que s'il n'avait pas redoublé. De plus, un élève qui commence à redoubler verra, et je crois que ça a été cité par un de vos,
oui,
un de vos
à
auditeurs
fait.
Tout à l'heure.
Mamadou qui dit j'ai jamais vu un élève qui double sa classe par la suite face voilà. à partie des meilleurs.
Donc en fait c'est une sorte de marqueur social d'abord parce que c'est une sorte d'antichambre pour la sortie d'école et ensuite l'élève qui a redoublé une fois finalement il n'arrivera pas de toute façon au même niveau ou très rarement au même niveau.
Ce que disent les enseignants, je sais pas vous François Portzer, mais bien sûr il s'agit pas qu'il devienne le meilleur mais il s'agit qu'il ait un niveau plus acceptable. C'est ça que vous dites, vous, en tant qu'enseignant ?
Eh bien, c'est-à-dire que pour un élève qui a des difficultés dans une classe donnée et qui peut avoir un projet d'orientation qui ne correspond pas à ses résultats, le redoublement peut lui permettre justement d'atteindre le niveau requis. Et encore une fois, par rapport à ce que...
Est-ce que vous pouvez parler plus concrètement ?
Eh bien, concrètement, un élève qui a vraiment de vraies difficultés, très souvent... ne va pas choisir la solution du redoublement. C'est un élève qui se pose des questions sur son orientation, qui a des lacunes ponctuelles, qui est en accord avec sa famille, lui va redoubler. Donc c'est une chance le redoublement, c'est pas une sanction, en tout cas en France.
Une chance et non pas une sanction.
Oui, effectivement, c'est ce que pensent les enseignants, et j'en suis sûr qu'ils le pensent sincèrement. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce que ils voient l'élève qui redouble dans leur classe. La deuxième année, l'élève est meilleur que la première. Si on redouble le CP, à la fin du deuxième CP, on est meilleur que à la fin du premier CP. Toutes les études le montrent. Mais c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est si on avait passé l'élève, laissé passer l'élève, est-ce qu'il aurait fait mieux que en recommençant un deuxième CP.
Comment on peut le savoir, ça?
On peut le savoir en prenant, comme font toutes les recherches sur le redoublement, c'est-à-dire en constituant des binômes d'élèves semblables, en particulier de même niveau, et en mesurant ce qu'ils savent un an plus tard, ou ce qu'ils savent une fois qu'ils ont atteint le même niveau dans la carrière scolaire, un ou deux ans plus tard.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. On va laisser la parole maintenant à des auditeurs qui ont envie de s'exprimer. Bien évidemment, vous commenterez leur témoignage. Je vous donne le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Nous accueillons Sylvie qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Sylvie.
Bonjour Emmanuel.
Sylvie, vous êtes une maman d'élèves.
Oui.
Ouais. Alors quel est votre point de vue sur le redoublement?
Oui, mon point de vue, à mon avis, le redoublement quand même c'est utile. C'est utile parce que il sanctionne un élève qui n'a pas un bon niveau. Qui n'a pas le niveau pour passer en année supérieure, à mon avis. Donc, moi, je pense que c'est utile.
Est-ce que vos enfants ont redoublé ou pas, vous, Sylvie?
Oh non, heureusement, j'ai jamais eu ce problème. Je m'y prends dès le début de l'année, je mets mes enfants, je les suis depuis le début de l'année, et puis ici, nous pouvons renforcer un peu ça de l'enseignant à la maison et tout.
C'est ce qui veut dire que si l'école proposait, je ne sais pas quel âge ont vos enfants maintenant, ils sont à quel niveau, secondaire, primaire?
Oui, secondaire, toujours secondaire.
Mais si le lycée proposait un redoublement pour l'un de vos enfants, vous ne chercheriez pas à vous y opposer ou si vous seriez contre?
Ben, s'il le proposait, c'est que l'enfant n'a certainement pas de niveau supérieur. je ne m'y opposerai pas. Mais pour éviter ça, comme je vous l'ai dit, je prends mes dispositions dès le début de l'année.
Mmh. Oui.
Et si un enfant refuserait, ça lui apprendrait que la facilité, c'est pas la bonne chose à faire.
Jacques Malpel, vous souhaitez intervenir du PASSEC, vous
bien êtes sûr, basé à Dakar. Sylvie, je comprends tout à fait que vous portez beaucoup d'attention à vos enfants et que vous suivez leur scolarité. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les parents qui, quelquefois, sont analphabètes, n'ont pas la possibilité de suivre la scolarité des enfants. Et cela, on constate, et les études qui ont été menées le démontrent très clairement, que les mécanismes de remédiation qui sont nécessaires pour qu'un redoublement soit utile ne sont pas en place.
Qu'est-ce que c'est les mécanismes de remédiation? Médiation, en langage clair.
En langage clair, ça veut dire que on doit savoir pourquoi l'élève a redoublé. Ça peut être pour des raisons tout simplement qu'il a une mauvaise vue, par exemple, et qu'il voit pas bien. Donc on le met dans les rangs du fond. Ça peut être parce que
ça arrive fréquemment dans les écoles en Afrique subsaharienne.
Aller dans une école en Afrique et regarder le nombre d'élèves qui portent des lunettes. Alors il y a deux solutions. Soit les Africains ils voient beaucoup mieux que les autres. Soit c'est que les enfants qui n'y voient pas en Afrique n'ont pas de lunettes. Et évidemment, c'est plus difficile. On peut rajouter à ça tous les problèmes de nutrition, tous les problèmes qui sont liés à la santé, tous les problèmes qui sont liés à l'environnement social de l'élève. Donc en fait, le redoublement, pour être utile, devrait être accompagné d'un suivi un petit peu plus personnalisé de l'enfant qui lui permet d'améliorer ses performances d'une année à l'autre, ce qui n'est que très rarement le cas.
Sylvie, vous souhaitez réagir ?
Je suis tout à fait d'accord avec le monsieur qui vient de parler. Effectivement, le redoublement, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il faut chercher ce qu'il y a. Mais quelque part, c'est pour pas empêcher l'enfant de donner le meilleur de lui-même. Et si l'enfant n'a pas donné le meilleur de lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas le niveau pour aller en année supérieure. Parce que s'il cumule les lacunes comme ça, jusqu'à l'année où il doit passer un examen, le bac par exemple, ça risque de ne pas bien se passer, est-ce que vous voyez. Donc, effectivement, il faut un accompagnement, c'est sûr.
Ouais, c'est ça. Vous dites en fait le fait de ne pas redoubler conduit à l'échec. Merci beaucoup Sylvie. Denis Meuret souhaite réagir.
Mais je voulais répondre à Sylvie.
Oui, elle est toujours en ligne. Hein.
D'une part que l'écart entre le niveau des élèves de deux classes successives, CP et CE1 ou seconde et première par exemple, est beaucoup moins grand que sans doute elle ne le croit. C'est l'écart entre le niveau moyen de deux classes successives est à peu près le quart de l'écart entre les meilleurs et les élèves et les moins bons des élèves d'une même classe. Donc, quand on fait le fait de passer ou de ne pas passer, est beaucoup moins important qu'on ne le croit pour cette raison. L'enjeu est moins important. C'est beaucoup moins clair. C'est pas vrai qu'un élève qui est mauvais en CP, si on le laisse passer au CE1, il n'apprendra rien du tout. Il y a deux phénomènes qui jouent. Un, c'est un élève lent. S'il est faible, c'est qu'il est lent. Donc il faut lui donner, pendant l'année scolaire, davantage de temps, soit parce qu'on s'intéresse plus à lui qu'aux autres, soit parce qu'on lui rajoute des cours de soutien, soit parce qu'on rajoute une école d'été.
On va en parler des solutions. François Porzière, il nous reste quelques secondes avant de rendre l'antenne pour le flash. Vous souhaitez réagir
Simplement pour dire qu'on fait redoubler un élève, c'est parce qu'il n'aime pas maîtriser les acquis dont il aura besoin dans la classe supérieure. Donc ces acquis, il faut bien qu'il les acquiert pour pouvoir réussir. Et on ne peut pas dire qu'en passant d'une classe à l'autre sans avoir les bases suffisantes, l'élève ait le moyen de
réussir. Alors néanmoins, il y a de nombreux pays dans le monde développé, en tout cas qui ne font plus redoubler les élèves. Et d'ailleurs, même si on prend l'Afrique de l'Est, tiens, on va en parler tout à l'heure avec vous, Jacques Malpel, où le redoublement est beaucoup moins important et le niveau, pourtant, n'est pas forcément plus bas. Vous restez avec nous, Denis Meuret, Jacques Malpel, François Porzière. Les voisins, les voisines, vous pouvez nous appeler pour réagir sur le redoublement. Faut-il faire disparaître le redoublement? 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, on a envie d'avoir le point de vue des enseignants, où que vous soyez dans le monde. Retour dans 3 minutes après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons éducation comme chaque vendredi. À quoi sert le redoublement? Pourquoi cette pratique est en voie d'abandon dans de nombreux pays? Pourquoi en France, la France résiste malgré d'ailleurs les injonctions et les objectifs du ministère de l'Éducation nationale qui a décidé que cela deviendrait une pratique exceptionnelle à partir de la rentrée prochaine, par exemple totalement supprimée et interdite en classe maternelle. On en parle aussi à la lumière de la situation en Afrique francophone. Les enseignants sont-ils le principal bastion de résistance? Pas forcément, on entend des parents d'élèves également nous dire qu'ils y tiennent. Denis Meuret dans le studio, vous êtes sociologue de l'éducation, IRÉDU, Université de Bourgogne. François Portzer, vous êtes un syndicaliste, c'est le SNALC, hein, le deuxième principal syndicat pour les lycées collèges en France. Et Jacques Malpel, vous êtes basé à Dakar et vous êtes à la tête du PASEC qui dirige donc des études sur les pays de la francophonie, donc beaucoup sur la situation africaine que vous connaissez bien. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec une voisine qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Tatiana.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue. On vous écoute.
Merci.
Tatiana.
Je pensais à mon fils qui est en 6e aujourd'hui, à qui j'ai fait redoubler le CM2. Parce qu'il avait de très très mauvaises notes. Et donc, la maîtresse m'a conseillé de le faire redoubler. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire. Donc, il a redoublé. Ça n'a pas été mieux l'année d'après. Même des fois pire à certains trimestres. Et j'ai quand même décidé de le faire passer en 6e. Sinon, il triplait le CM2. Donc, j'ai fait faire des tests d'entrée en 6e. Et là, miracle, il a eu 14 en français, 16 en maths. Mmh. Il a été accepté dans le collège. Mmh. Et premier trimestre, il a eu un tableau d'honneur avec 14 de moyenne. Mmh. Et deuxième trimestre, on est parti pour un 14 de moyenne également. Je ne le suis plus comme je le faisais en CM2, donc pas derrière pour les devoirs, etc. Mmh. Et aujourd'hui, dis donc que je regrette amèrement de lui avoir fait perdre une année.
Mmh. Ah, on peut aussi vous dire, vous voyez que le redoublement a été profitable, non? Je ne sais pas.
Je ne pense pas que ça a été profitable parce que les moyennes n'étaient pas meilleures.
Oui, mais finalement, en arrivant dans la classe suivante, une fois qu'il a redoublé, il a de très bonnes notes.
Écoutez, moi, en tant qu'enseignant de terrain, en lycée, en collège, je peux dire que, en gros, 70% des élèves que j'ai pu faire redoubler ont eu des meilleures notes dans les classes qui ont suivi. Ça a été profitable. Je dirais à peu près pour les deux tiers des élèves, c'est profitable.
Une fois qu'ils ont redoublé, donc l'année après le redoublement.
Tout à fait. C'est-à-dire que la deuxième année, elle est meilleure et ensuite, ça leur permet de reprendre pied et d'avoir une scolarité meilleure dans les classes suivantes.
Et alors, Denis Meuret.
Je dois exprimer mon désaccord avec cette statistique. Ce que montrent les études, évidemment, beaucoup plus rigoureuse, faite par les chercheurs en éducation ou par des économistes, c'est que le redoublement peut avoir des effets positifs à court terme, mais 2-3 ans après et 6 ans après encore plus, il a des effets négatifs ou nul, c'est-à-dire que l'élève a perdu un an pour rien. Et c'est la raison pour laquelle, à part dans les pays d'Afrique francophone, le redoublement diminue partout.
Dans les pays développés. D'accord. Je voudrais qu'on laisse quand même Tatiana réagir hein, par rapport à ce que vous venez de dire, là, tous les deux, parce que vous maintenez, Tatiana, que finalement, votre enfant aurait réussi tout aussi bien en 6e sans avoir fait 2 fois la classe de CM2. C'est bien cela?
C'est bien cela parce que je pense qu'on s'est limité aux moyennes qu'il avait en classe. Au-delà de ça, c'est un garçon qui a un esprit vif, qui tient des discussions avec des adultes, qui utilise des termes assez, j'ai pas le mot, excusez-moi, mais disons que on s'est limité sur les moyennes, les notes qu'il avait en classe, sans chercher au-delà, et on l'a fait redoubler sur cette base-là. Et je pense qu'avec son esprit, si on avait vu au-delà,
vous dites que le redoublement tombe comme un couperet et empêche de réfléchir sur les causes des difficultés scolaires des élèves. Nous sommes en ligne avec alors 2 auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous, Tatiana. Vous pouvez rester en ligne. Hein. Mathieu est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Mathieu. Allô Mathieu, êtes-vous en ligne avec nous?
Oui.
Oui,
tout à fait, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle.
Bonjour, Mathieu. Soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Vous êtes enseignant ?
Oui, je suis professeur à l'Université de Kinshasa, à la faculté polytechnique.
Oui, nous vous écoutons.
Oui, d'abord, bonne année, même si c'est très tard. Et je vous remercie pour avoir organisé cette émission sur ce thème. Mmh. C'est un thème très important. Et je remarque que vous faites tous les intervenants font les distinguos entre les pays francophones et, sous-entendu, les pays anglophones. Mmh. Nous n'avons pas le même système d'éducation. Mmh. En tout cas, moi, je soutiens l'idée que il faut maintenir les redoublements, tout au moins dans le pays sous-développé, et je spécifie les pays francophones.
Mmh. Pourquoi
nous
vous dites ça?
Nous sommes interdits de maladie ici. Pourquoi? Parce que de notre temps, les premières années après l'indépendance, nous avons été formés par des prêtres, par des sœurs religieuses. Les redoublements étaient un mal nécessaire et on fixait les niveaux. La conséquence est que notre niveau d'enseignement était bon. Et le premier formé de notre pays, qui avait des diplômes de l'école secondaire...
Attendez, le niveau d'enseignement était bon, personne n'allait à l'école. Alors évidemment, sur le peu qui y allait, il était bon, mais...
ils étaient bons. Oui. Aujourd'hui, Emmanuel, à Kinshasa, c'est le diplôme à tout prix. Personne ne veut échouer.
Mais alors vous, à Polytechnique, mais vous, en tant qu'enseignant à Polytechnique, qu'est-ce que vous observez? Vous avez le sentiment que vos étudiants qui n'ont jamais redoublé, ils ne sont pas au niveau?
Non, j'ai... D'abord, ce que je remarque en Polytechnique, c'est que même les étudiants qui se savent faibles n'acceptent pas d'échouer. Et pour cela, ils se mettent à réclamer à tort et à travers. Ils écrivent même aux responsables politiques du pays pour chercher à passer des classes, de toute façon, de passer des classes, même s'ils ont un niveau bas.
Oui.
Quel type d'ingénieurs seront ces étudiants-là?
Oui. Oui. Vous critiquez cette culture de la négociation de la part des jeunes. D'accord. Jacques Malpel, peut-être, sur le continent.
Oui, je voudrais peut-être rebondir par rapport à ça. Les études sont très, très claires et il n'y a pratiquement aucune exception dans les études que mène le PASEC qu'un élève qui redouble, pratiquement jamais aura de meilleurs résultats que celui qui n'a pas redoublé. Donc, et, par contre, il a beaucoup plus de chances de quitter l'école prématurément. Donc c'est quand même un sas vers l'exclusion scolaire. Mais je voudrais revenir sur un point important, sur l'acquisition des savoirs dès le début de la scolarité primaire. Je pense que l'on redouble ou que l'on ne redouble pas, il est important de s'assurer que les élèves, dès le début de leur scolarité primaire, acquièrent les bases indispensables. Si... Actuellement, s'ils redoublent, on sait que le redoublement ne va pas les aider. Mais s'ils ne redoublent pas, ils vont passer dans les étages supérieurs du cycle. Ouais. Et ils n'auront toujours pas ces acquis de base. Et ça va faire que en CM2, on a des élèves, on a 30% des élèves qui n'ont rien à faire en CM2 parce qu'ils sont incapables de lire correctement un texte et de comprendre ce qui est écrit.
Donc ingérable pour les enseignants, du coup.
Ingérable pour les enseignants, et c'est une perte pour tout le monde. C'est une perte pour les familles, parce que l'école coûte cher aux familles. Ouais. C'est une perte pour les États.
Jacques Portzer, peut-être vous voulez réagir aussi sur cette espèce de culture du marchandage. Ben non, de toute façon, l'État m'autorise à passer. Je n'ai pas à redoubler, même si je suis
choses.
Pas bon.
D'abord, de toute évidence, la situation dans les pays d'Afrique francophone est différente de celle de la France métropolitaine, sans doute. Le contexte social n'est pas le même. Mais pour revenir à votre question, le redoublement, c'est aussi un aspect psychologique. Vous savez, un élève qui ne réussit pas et qui passe dans la classe supérieure sans avoir aucune, retour de ses mauvaises performances, c'est pas très bon pour sa motivation, et ça peut contribuer justement à le démotiver pour la suite, quoi. Les élèves, vous savez, ils aiment bien les règles. Ils aiment bien savoir à quelle sauce ils vont être mangés, comprendre dans quel sens ils vont travailler.
Est-ce qu'un élève qui redouble est franchement psychologiquement heureux l'année du redoublement? Est-ce que réellement il reprend confiance en lui? Je ne sais pas, Tatiana, lorsque votre fils a redoublé, vous nous avez dit qu'il y avait des notes bien pires la deuxième fois. Est-ce que réellement vous aviez le sentiment qu'il était en train de reprendre confiance en lui? Tatiana à Libreville.
Oui, ça a été l'effet contraire l'année d'après. J'ai même eu peur à un moment qu'il décroche complètement.
Les chiffres...
Il a été complètement déprimé, c'est pour ça. Ceci dit, je suis pas contre le redoublement, si c'est vraiment mérité, etc. Mais je pense qu'on devrait voir...
Vous employez le mot mérité, mais ça veut dire quoi? C'est comme si c'était finalement une sanction justifiée.
Non, disons que bon, c'est vrai, on peut trouver des élèves qui n'ont pas tout acquis dès le départ et qui ont vraiment de vraies difficultés au niveau de l'apprentissage. Mmh. Ça peut cacher d'autres problèmes éventuellement. Mmh. Mais disons qu'il y a des élèves qui peuvent avoir de mauvaises notes, mais qui ne sont pas bêtes pour autant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ce que j'ai constaté avec mon fils.
Oui, madame. Je pense qu'on peut partir du principe que tous les élèves sont de bons élèves. En tout cas, tous les élèves sont capables d'acquérir les compétences qui sont demandées à la fin du primaire. Donc, si on part de ce principe-là, il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. C'est simplement qu'il y a des élèves qui sont plus ou moins réceptifs, qui ont des problèmes qu'ils arrivent plus ou moins à maîtriser. Il y a des élèves plus ou moins lents et des problèmes qui ont d'autres problèmes à régler aussi, des problèmes familiaux, des problèmes d'environnement qui, finalement, ne facilitent pas leurs apprentissages. Mmh. Si on rajoute à ça que dans beaucoup de classes en Afrique, on a des effectifs qui sont de 140, 150 élèves. On demande aussi des choses qui sont pratiquement impossibles aux enseignants. On demande aux enseignants de gérer individuellement 150 cas particuliers qui sont a priori des cas difficiles. Donc le redoublement, on le sait, n'apporte pas de bonnes solutions. Ce qu'il faudrait peut-être obtenir, c'est que les gouvernements mettent suffisamment l'accent sur les apprentissages dès le début de la scolarité primaire pour essayer de faire monter tous les élèves.
Mathieu veut réagir, j'ai l'impression, je l'entends dans mon casque, à Kinshasa, là. On vous entend très... Non, la ligne est très mauvaise là, c'est pas possible, on va essayer de vous rappeler. Je crois qu'il y a Sylla aussi qui est en ligne avec nous à Abidjan, je ne sais pas si c'est Sylla qui a une dont la ligne téléphonique est très mauvaise. Bien évidemment, vous n'y êtes pour rien Sylla, ne vous inquiétez pas, on essaye de vous donner la parole en vous rappelant. Je voudrais lire le message d'Adama à Bamako qui veut répondre au message de Mamadou au Sénégal. Alors il nous dit, Mamadou dit qu'il n'a jamais vu un élève ayant redoublé revenir parmi les meilleurs. Je lui donne mon cas. Moi, j'ai échoué au baccalauréat. Et une fois, l'année suivante, j'avais les tableaux d'honneur. J'ai réussi au bac avec mention. J'ai obtenu une bourse pour le Maroc et j'en suis sortie major de ma promo avec un diplôme de master en géosciences et ressources naturelles. Là, je travaille pour une multinationale canadienne dans le domaine minier. Le redoublement m'a permis de réaliser que j'avais baissé les bras une année et que je pensais pouvoir réussir sans fournir trop d'efforts. Ce n'était pas vrai. Voilà, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que le redoublement et le couloir vers la porte de sortie. Évidemment, il y a toujours des cas de ce type. Comment opposer les politiques publiques et les histoires personnelles, Denis Meuret? En même temps, elles se nourrissent l'une l'autre.
Les politiques publiques doivent se fonder sur ce qui arrive en moyenne, soit pour l'ensemble de la population, soit pour une certaine catégorie qui nous intéresse. Aucun chercheur ne peut dire le redoublement ne sert jamais.
Ouais, bien sûr.
Ce que disent les chercheurs, c'est en moyenne, ça ne sert à rien.
Ce que disent les enseignants beaucoup, mais là vous me dites, François Porzer, si vous êtes d'accord ou pas, les enseignants souvent disent, mais cet élève, il a un problème de maturité. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'il redouble. C'est pas tant un problème de niveau. Mais ça se fonde sur quoi finalement? Est-ce qu'il faut de la maturité pour travailler à l'école?
Oui, enfin, ça dépend du niveau, mais moi je voudrais insister sur le fait que le fait de redoubler, c'est pas une marque d'infamie. Hein, ça veut dire qu'à un moment donné, un élève rencontre des difficultés concrètes dans l'acquisition d'un certain nombre de savoirs et qu'il a besoin de remédier à ces difficultés. Et qu'à partir de là, il faut pas oublier non plus, par rapport à ce que dit monsieur le professeur, c'est que... L'acte d'enseigner, c'est un acte humain, c'est un rapport humain. C'est-à-dire qu'on peut pas raisonner sur des grandes échelles. On a un rapport entre le professeur, les professeurs et un individu.
Mmh. Ah bah quand même une politique publique vu ce que ça coûte aux États, de former les élèves, c'est en général la première source de dépenses des États. On est obligé de raisonner à grande échelle.
Oui, mais justement, on est dans l'humain, on n'est pas dans la gestion des flux.
On peut rappeler ce que coûte le redoublement en France par an, Denis Meuret, juste un seul chiffre.
1,6 milliard.
Oui, moi, moi, encore une fois, je vous arrête tout de suite. Si on part du principe que l'acte d'enseigner doit être régulé par des flux financiers et ne pas s'intéresser aux aspects pédagogiques et humains de cette table, on a tout faux. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, de laisser aux équipes enseignantes, en accord avec les familles et avec les principaux intéressés que sont les élèves, la possibilité, dans un dialogue entre eux, de redoubler. Et c'est pas une marque d'infamie, c'est une chance, on peut leur donner. Parce qu'il faut quand même voir la réalité en face quelque part.
Les élèves qui ont redoublé, ils sont complètement stigmatisés dans les statistiques, que ce soit d'ailleurs en France et d'ailleurs en Afrique subsaharienne. Les critères pour donner des bourses à des élèves pour aller à l'étranger, à des étudiants par exemple, un des premiers critères, mais vous me dites Jacques Malpel si je me trompe, mais c'est il faut que l'étudiant n'ait jamais redoublé. Donc c'est vous êtes quand même bien marqué au saut au fer rouge par votre redoublement. Si on prend la France, dans les classes préparatoires, il n'y a quasiment pas d'élèves qui ont redoublé dans leur cursus. Bon, alors ce sont les classes préparatoires de l'excellence, mais Denis Meuret, vous êtes d'accord, le redoublement est stigmatisant. En tout cas, il n'annonce rien d'extraordinaire dans son parcours. Ensuite.
Pour moi, le problème principal n'est pas ça. C'est vrai, c'est stigmatisant. On mesure qu'à niveau égal, un élève qui a redoublé est plus mal orienté. À niveau égal, à niveau de sortie égal, un élève qui a redoublé est plus mal payé qu'un autre parce que l'entrepreneur qui l'embauche se dit « Ah, il a redoublé, il est mauvais. » Non, le redoublement est moins stigmatisant qu'il n'est inutile. C'est ça qui importe. C'est toujours l'idée. Le mauvais raisonnement, c'est de penser qu'on ne pourra pas apprendre. Qu'en fait, on apprendra mieux parce qu'on sera exposé à un apprentissage plus riche.
Nous retournons tout de suite au standard 33 1 84 22 71 71. Ibrahima est en ligne à Kaolack au Sénégal. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directeur d'école, d'une école publique, c'est bien ça, ou je me trompe? Non, je confonds avec un autre Ibrahima qui est à Niort-du-Rip, oui. Vous êtes à Niort-du-Rip, oui, très exactement, c'est ça?
Dans
le sud-ouest du Sénégal. Alors, justement, quel est votre point de vue sur le... On a envie d'entendre le point de vue d'un directeur d'école primaire sur le redoublement au Sénégal.
Voilà, donc à l'instar de la France et des autres pays africains francophones, le redoublement constitue vraiment une problématique aussi ici au Sénégal. Depuis 3 ans maintenant, l'État a décidé de la politique de zéro redoublement dans les écoles, du cours d'initiation au niveau 3e collège. Voilà, mais quand même, disons que les enseignants quand même ne sont pas du tout d'accord avec cette politique. Parce que faire passer les élèves en masse de classe en classe, donc ça contribue à rabaisser davantage le niveau de certains élèves, parce que les élèves n'ont pas tous le même rythme.
Est-ce que ça décourage les enseignants d'une certaine façon?
Non, ça ne les décourage pas, mais vous savez, au niveau de l'école, nous faisons ce que nous appelons une cuisine interne.
Une cuisine interne, c'est-à-dire?
Oui, voilà. Donc nous appliquons les textes.
Oui.
Nous appliquons les textes que nous devons remettre à l'autorité, mais une fois en début d'année, donc en conseil des maîtres, chaque enseignant dit carrément tel ou tel élève ne peut pas suivre les classes en cours supérieur, donc nous le ramenons.
Ah donc vous faites redoubler quand même. En fait, ce que vous appelez cuisine interne, c'est que vous n'appliquez pas tout à fait les directives.
Tout à fait, nous ne les appliquons
d'accord.
pas.
D'accord, très bien. Bon, au moins c'est clair. Merci pour ce témoignage fort utile, Ibrahima, dans le sud-ouest du Sénégal. On est en ligne avec Abdelkarim qui nous appelle de Paris, qui veut nous parler de son redoublement de sa classe de 6e au Tchad. Bonjour Abdelkarim.
Bonjour.
Vous êtes en direct, on vous écoute chez 7 milliards de voisins.
D'accord, en fait, c'est pour vous dire qu'en gros, ça ne m'a pas servi grand-chose. Et le problème, au Tchad, de ce que je connais, c'est que, en fait, il y a un problème d'orientation. Par exemple, en France, moi, j'ai fait la troisième découverte, j'ai découvert un métier. Aujourd'hui, je travaille chez GDF. Et en Afrique, je pense qu'il n'y a pas d'alternative. La plupart des gens, ils continuent en général. Et par exemple, au bac, il y a des gens qui passent 4-5 fois le bac au Tchad, et au final, ils n'ont toujours pas. Et voilà. Ouais. Je pense que en fait c'est plus problème d'orientation qu'autre chose.
Ouais. Merci beaucoup de soulever ce point-là, Abdelkarim, qui est très pertinent. Vous avez eu la chance donc de pouvoir suivre ensuite un enseignement professionnel adapté, etc., qui vous convenait. Et c'est vrai qu'en Afrique, à l'heure actuelle, francophone d'ailleurs et même anglophone, je parle sous votre contrôle, Jacques Malpel, l'enseignement professionnel est très peu développé, ce qui fait qu'un élève qu'on a déjà fait redoubler, dont on sait que le redoublement est inutile, qui a du mal à suivre, mais qu'il faut continuer à former, à peu d'alternatives, non ?
Alors, en effet, il est peu développé, il est pas adapté, et il est relativement cher pour ce que ça forme, c'est-à-dire la formation qui est dispensée, et toutes les entreprises le disent, c'est-à-dire que l'enseignement technique et professionnel, tel qu'il est organisé dans la plupart des pays africains, ne sert pas à grand-chose pour un coût très élevé.
Est-ce que vous pouvez nous donner la situation de l'Afrique anglophone, où on redouble beaucoup moins, et ensuite on parlera peut-être des pays européens, où majoritairement on redouble quasiment pas ?
Alors, les pays anglophones, c'est vrai, ont une culture du redoublement qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'ils considèrent l'éducation primaire comme un cycle et tous les élèves doivent pouvoir passer. C'est pas pour autant qu'ils ont forcément des résultats tellement meilleurs, parce que finalement les causes sont toujours là. Leurs systèmes sont relativement moins chers quand même au niveau du système éducatif,
mais donc ils peuvent scolariser plus d'enfants. Le niveau scolaire de ces élèves-là en Afrique anglophone n'a pas chuté drastiquement par rapport à l'Afrique francophone, il n'y a pas de fossé très visible.
Non, il n'a pas eu à chuter, puisque cette culture du non-redoublement dans les pays francophones, elle est très ancienne. Donc en fait, ça a toujours été comme ça, et ils ont hérité
mais
ça.
Mais le niveau scolaire est comparable ?
Le niveau scolaire, ça dépend des pays, parce que c'est un peu difficile de ramener tout. Le continent africain est quand même composé de
beaucoup
de pays.
Évidemment, on
ne
peut pas le diviser en deux blocs. Mais je veux dire, si on prend un pays d'Afrique francophone avec un niveau de développement et de revenus économiques comparable à un pays d'Afrique anglophone, le niveau scolaire est comparable également.
Oui, à peu près, peut-être un petit bonus sur sur certains pays anglophones, mais il n'y a pas une énorme différence.
François Portzer, alors vous, en tant qu'enseignant et syndicaliste en France, finalement, si le redoublement venait à effectivement, contre votre point de vue, être drastiquement diminué, qu'est-ce que vous réclamez comme moyen pour faire réussir les élèves ?
Nous, on réclame qu'à un moment donné, on prenne la mesure des difficultés d'à peu près un cinquième des élèves et on mette en place des dispositifs pour y remédier. Alors nous, par exemple, dans notre syndicat au collège, on a proposé un projet de collège modulaire qui permet en anglais, en français et en maths de prendre des élèves en petit effectif, des élèves en difficulté, pour remédier à leurs lacunes. Malheureusement, on n'a pas encore une vision très claire de la réforme du collège qui est en cours. Je ne suis pas sûr que ce soit les pistes défendues par le.
Il y aura du travail en petits groupes, mais c'est vrai que l'axe majeur, c'est l'interdisciplinarité.
Voilà, il faut voir concrètement comment ça va se passer. Parce que le problème en France, encore une fois, vous avez un cinquième des élèves en difficulté et personne ne s'occupe de ces élèves. Et cherche à remédier. Alors, le redoublement, encore une fois, n'est pas une solution miracle. Ça peut être un outil parmi d'autres. Mais on ne peut pas continuer comme ça à ne rien faire et avoir chaque année 150 000 élèves sortir du système sans qualification.
Est-ce qu'en deux mots, Denis Meuret, vous pourriez nous dire quels sont les moyens utilisés par les pays développés qui ne font plus redoubler leurs élèves pour qu'ils aient des résultats largement comparables, voire meilleurs à ceux de la France dans les comparaisons internationales ?
La première chose, c'est que, ils ne font pas redoubler.
Oui, non, bien d'accord.
Le simple fait de supprimer le redoublement améliore les résultats des élèves faibles, puisque on montre que le redoublement est nuisible aux élèves faibles. Bon, ceci dit, c'est mieux si on fait plus, et ce que font ces pays-là, c'est des écoles d'été, c'est du soutien scolaire, c'est ce qui existe c'est ce qu'on veut développer en France avec les programmes personnalité de réussite éducative, ça existe beaucoup au Québec par exemple. Bon, le problème c'est que justement, à cause de l'existence du redoublement, peut-on penser, on n'a pas réussi à développer ces choses-là en France. Et le décret de novembre 2014...
Qui veut rendre le redoublement exceptionnel en France.
Oui, mais l'important est qu'il développe une autre conception de l'aide aux élèves en difficulté que le redoublement. Conception, c'est dès qu'un élève est en difficulté, intervenir en cours d'année. Alors qu'avec le redoublement, dès qu'on sait que l'élève va redoubler, l'élève baisse les bras, le prof baisse les bras, etc.
Avec des moyens rebasculés sur les économies à terme du redoublement, non?
Absolument.
C'est ce que vont réclamer les syndicalistes et les enseignants, et avec raison.
Avec raison, oui.
On accueille un dernier auditeur, peut-être pour conclure cette émission sur le redoublement. Serge est à Paris. Bonjour Serge.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Alors, je vous ai dit rapidement, le problème des redoublements en Afrique, précisément au Congo, est dû à la faiblesse de la formation. C'est-à-dire, on n'a pas assez de structures adaptées pour acquérir les mêmes. En fait, ce qui se passe en France, vous avez tout pour une bonne formation, des bons enseignants, la documentation, les livres et tout. Alors qu'au Congo, l'élève a parfois besoin de un an en plus pour assimiler ce qu'un élève en France assimile en un an. Voilà, on n'a pas de conditions, les enseignants parfois n'ont pas le niveau qu'il faut, il manque les livres, la formation elle est toute théorique, il n'y a pas de pratique, ça veut dire qu'on ne fait pas de liaison entre la pratique et la théorie, ce qui fait que même les bons élèves, moi personnellement, j'ai eu besoin de 2 ans en terminale pour avoir mon bac, et cela ne m'a pas empêché de faire des bonnes études supérieures après.
Bon, merci pour ce témoignage Serge. Donc conclusion Serge, Jacques Malpel sur l'Afrique, le redoublement utile pour pallier des dysfonctionnements, ou c'est pas comme ça qu'il faut raisonner?
Il me semble qu'il faudrait raisonner peut-être en termes plus global et de dire que les ressources qui pourraient être économisées en ne faisant pas redoubler des élèves, il faut qu'elles soient en priorité réinvesties pour l'accompagnement des élèves.
Et on peut dire exactement la même chose pour la France.
Oui, oui, tout à fait.
Merci infiniment à tous les trois. Denis Meuret, spécialiste de l'éducation IREDU, Université de Bourgogne. Vous avez publié Pour une école qui aime le monde aux presses universitaires de Rennes. François Portzer, président national du SNALC, deuxième syndicat de l'enseignement secondaire en France, et Jacques Malpel, donc du PASSEC à Dakar. D'ailleurs, vous reprenez l'avion pour Dakar. Bon retour, merci d'être venu de passage dans le studio de RFI. Merci à vous tous, les voisins, les voisines, pour vos témoignages. Vous savez que c'est vous qui faites l'émission du lundi au vendredi. Lundi, 7 milliards de voisins, ex-manager devenu manuel. Et oui, je recevrai des adultes ultra-diplômés qui ont décidé de devenir artisans, plombiers, mécaniciens. C'est très intéressant. À lundi.